Aujourd'hui, je vais présenter un ouvrage qui est écrit à quatre mains par deux personnages que je connais très bien. Joël, nous avons fait nos études pratiquement ensemble, nos études d'histoire, et ça se sent dans l'ouvrage, j'y reviendrai, que c'est une historienne, et qui, après avoir fait une thèse, une très belle thèse sur Jules Verne, continue dans la biographie, finalement. Hein. Tu quittes pas tes premières amours. Et Joëlle a été sénatrice de la Gironde, inspectrice agrégée d'histoire d'abord, docteur d'État, sénatrice de la Gironde et inspectrice générale. Alors, peut-être que c'est Michel Rocard qui nous réunit.
C'est
vrai. Donc, Pierre Branac, que je ne vous présente pas. Qui est toujours rocardien, je l'espère,
bien sûr.
Qui a été député maire, d'abord ingénieur EDF, député maire d'Isigny, et ses deux amis, on peut le dire, sont comme moi à la retraite, mais une retraite très active, puisqu'ils continuent d'écrire, et notamment d'écrire des biographies. J'en citerai deux. Il y a eu Adrien Marquet, et on le retrouve d'ailleurs dans la biographie de Philippe Henriot, bien entendu, puisque c'est la même période, ces années de l'entre-deux-guerres qui ont été des années un petit peu tumultueuses, et Robert Lacoste. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours complus à écrire des biographies de personnages complexes. Je rappellerai qu'Adrien Marquet a commencé par être au Parti Socialiste et puis qu'il a ensuite été chez les néo-socialistes et Robert Lacoste aussi, alors lui plus tardivement, qui a eu effectivement une trajectoire également complexe avec notamment la guerre d'Algérie. Alors là, avec Philippe Henriot, moi j'ai suivi tous les travaux de Joël, excuse-moi de te citer en premier, je sais que sur un ouvrage, j'ai vu l'ordre alphabétique, c'est d'abord Pierre et Joël, mais mon féminisme fait que je te cite en premier. Avec Philippe Henriot, je ne dis pas que j'ai été étonnée, mais vous vous êtes attelée à un personnage profondément antipathique. Je n'ai rien trouvé pour excuser l'attitude, mais peut-être que vous allez être un peu son avocat, mais je n'ai rien trouvé de sympathique dans ce personnage qui, je le rappelle, est mort quand même avec l'uniforme de la milice, ce qui n'est pas forcément, je dirais, très sympathique et attractif.
Il était en pyjama.
Il était en pyjama, oui. Bon, mais oui, il allait se coucher. Mais avant, il portait l'uniforme de la milice. Alors, c'est un homme, on le voit d'ailleurs très physiquement, mais vous allez en reparler, très raide, émacié, et qui a eu quand même pour qualité d'être un grand orateur. Pour dire des atrocités, mais il le disait avec talent. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'ai senti le personnage. Et au fond, ça sera ma première question. Comment se fait-il que vous ayez écrit un ouvrage assez conséquent sur ce personnage aussi antipathique ? Alors, ce que l'on remarque aussi dans votre travail, c'est un travail véritablement d'historien. Si on regarde les notes ne sont pas simplement des références, ce sont des compléments du texte qui sont extrêmement importantes. C'est aussi un personnage qui a des attaches girondines ô combien, et ceci explique peut-être cela. Les archives sont, vous avez dépouillé des archives, à la fois des archives nationales, mais aussi des archives départementales. Alors c'est ma première question, comment se fait-il que vous ayez consacré autant de pages à un personnage pour lequel moi j'aurais consacré 4 lignes en disant que c'est un personnage très antipathique?
Alors justement, c'est votre conclusion qui donne l'explication, c'est que si vous regardez tous les livres sur cette période, Henriot est généralement traité en quatre lignes. Hein, et on ne parle que du temps où il est ministre de l'information et de la propagande. Et il y a eu au moins trois raisons qui ont fait que nous avons choisi Henriot. La première, c'est qu'on aime bien les gens sulfureux.
Oui. D'anciens militants socialistes.
C'est-à-dire Marquet, ça a été pendant toute une période de sa vie un député SFIO. Ça a été un grand défenseur des grévistes en 1920. Et puis il va basculer, quand il va devenir néo. Et puis après, pendant la guerre, bien entendu. Donc c'est ça qui nous a intéressés chez Marquet. Chez Lacoste, c'est pareil. Oui. Qu'est-ce qu'on retient de Lacoste ? Lacoste, la torture en Algérie. Voilà, c'est ça. Or, c'est un homme qui, dans l'entre-deux-guerres, a été un syndicaliste très efficace, qui a travaillé avec Jouot de manière très, très forte, qui, pendant la guerre, a été un grand résistant. Il a travaillé avec Jean Moulin. Et donc, c'est ça, là aussi, qui nous a intéressés, comment cet homme qui avait très beau parcours, subitement bascule. Et puis, pour ce qui est de Henriot, alors là, c'est assez différent. C'est-à-dire que Henriot, d'abord, on l'avait rencontré lorsqu'on avait travaillé sur Marquet. On a travaillé sur la collaboration venant de la gauche. Et donc, il était tentant pour nous, puisqu'on l'avait croisé à plusieurs reprises, de parler, d'étudier la collaboration venant de la droite et de l'extrême droite. C'était le complément, collaboration venant de la gauche, collaboration venant de la droite. Ça a été, je dirais, première idée que l'on a eue pour compléter notre travail déjà fait. Et puis il y a eu une deuxième raison. Voilà, Henriot, un homme qui est professeur d'un petit collège à Sainte-Foy-la-Grande, qui est un catholique pratiquant, qui est viticulteur, il va épouser une propriétaire d'un petit château.
Château Picot.
Voilà, exactement. Et puis, c'est aussi un poète. On l'a oublié, mais il a fait des poèmes qui ne sont pas des poèmes de Mirliton. Hein, c'est pas mal, il y a des choses.
Un chasseur de papillons.
Alors, c'est un chasseur de papillons et un spécialiste des papillons. Il va écrire dans les revues les plus savantes. Il a une collection de papillons assez remarquable, qui va d'ailleurs être dans un musée à Carouge. Il a également écrit des romans un peu datés, mais qui tiennent la route. On a eu d'ailleurs certains que la famille a bien voulu nous prêter, qui n'avaient pas été publiés. Il a écrit une pièce de théâtre, qu'il a jouée lui-même d'ailleurs. Non, voyez-vous, un homme qui n'a rien à voir avec l'image qu'on a aujourd'hui. Et puis, il va devenir l'homme politique que l'on connaît, mais c'est ce passage de quelqu'un qui était un poète, un littéraire, un professeur, adoré de ses élèves, c'est ce basculement aussi qui nous a intéressés. Et puis, il y a une troisième série de raisons. Il n'y avait pas eu de biographie de Henriot. D'ailleurs, Perrin a été de suite séduit à l'idée d'avoir enfin une biographie de Henriot, avec tout ce que ça pouvait apporter. Et donc, ça a été pour nous aussi un peu le déclic, parce qu'on pouvait avoir... Il a été journaliste à La Liberté du Sud-Ouest. Vous savez, il y avait trois grands quotidiens à l'époque, qui étaient La Petite Gironde, La France... et la liberté du Sud-Ouest. Il a été journaliste à la liberté du Sud-Ouest, dont les archives départementales ont beaucoup de documents sur Henriot, sur notamment ses articles dans la presse. Et puis, dans le Sud-Ouest, il a de la famille encore.
Oui,
qu'on a rencontré. Il a ses petits-enfants. Donc, on a pu avoir ainsi des documents de première main, notamment des manuscrits, des tapuscrits, en réalité, de livres qui n'ont pas été publiés, on ne sait pourquoi, mais que la famille a bien voulu nous prêter, dont on fait une analyse, et qui éclaire le personnage Henriot. Puisque, et ça on pourra le détailler tout à l'heure, Joël en particulier s'est beaucoup intéressé à cette question, c'est qu'on a lu que les renseignements généraux disaient « mais on a vu Henriot en galante compagnie », ce qui pour un cato austère quand même était un peu affriolant, quoi, hein. Donc on a travaillé un petit peu dans cette piste, et ce roman qui n'a pas été publié, et en particulier la nouvelle, une nouvelle qu'on nous a également prêtée et qui n'a pas été publiée, dévoile en effet un Henriot qui est sur, dans les années 30, beaucoup moins catholique au sens profond du terme, et qui, ma foi, excuse... Puisqu'il a même une plume un petit peu complice par rapport à quelqu'un qui ne se conduit pas très bien avec son épouse au point de vue de la fidélité. Donc, si vous voulez, une évolution sur ce plan qui nous a été également soulignée par ce tapuscrit. Donc, voilà un peu les raisons qui ont fait qu'on s'est intéressé à Henriot. Mais encore une fois, ce qui domine quand même, c'est que... On est toujours un petit peu passionné, et moi je suis tout particulièrement d'ailleurs, par cette recherche de la vérité d'un homme. C'est-à-dire que, bon, on sait bien tous que personne n'est tout blanc et tout noir, mais là quand même, on a essayé de voir quel avait été ce cheminement et qu'est-ce qui pouvait expliquer le Henriot que tout le monde connaît, celui de l'orateur fabuleux qui mobilisait les masses et qui était tout à fait pro-Allemagne.
Oui, d'ailleurs, vous avez adopté la trame chronologique pour justement montrer à la fois le cheminement et la progression, sauf le premier chapitre. Et oui. J'ai bien aimé, vous commencez par la mort, par l'assassinat, par l'exécution. Les résistants. Et donc, on connaît la fin de l'histoire.
C'est
dès
ça.
Le premier chapitre, encore que ce ne soit pas un scoop ou un suspense, mais c'est vrai que c'est assez original. C'est assez original de commencer par son exécution. Et est terrible, cette exécution. Ah, hein. Vous avez là des talents de, je dirais presque, de journaliste, d'écrivain mot à mot, puisque, comme vous dites, il a été exécuté en pyjama, alors qu'il y a eu, effectivement, il était convoqué à une réunion de la présidence du Conseil, et puis ça a été reporté, et c'est là qu'effectivement, l'imparable s'est produit. Et cette trame chronologique explique bien, j'allais dire, les différentes étapes de finalement ces idées et aussi de ces hostilités. Il a d'abord été profondément anti-maçon. Il a été anti-républicain. Il a été profondément et violemment antisémite. Il a été anti-parlementaire, alors que c'était un député, qu'il a été député. C'était un parlementaire.
Le parlementaire le plus anti-parlementaire.
Le parlementaire le plus anti-parlementaire. Il a été aussi, d'abord, anti-allemand parce que patriote, comme d'autres. Et puis ensuite, il a souhaité la victoire de l'Allemagne. Donc on voit successivement, au fur et à mesure, ces aversions, ces hostilités, et au fil de l'ouvrage. Et c'est vrai qu'en plus, on a toujours cette interférence entre l'histoire locale et l'histoire nationale. Et ceci aussi, ce va-et-vient d'échelle est très intéressant parce qu'on ne voit pas finalement on ne fait pas tellement de distinction entre l'Henriot local et le Henriot national. Et il y a toujours ce qui le guide, ce sont ses aversions. Et est-ce que vous pouvez un petit peu compléter cette accumulation, j'allais dire, d'aversions?
Je crois qu'effectivement, ce qui nous a frappé, quand on a essayé de définir les idées de Philippe Henriot, on se rend compte que quand on interroge ses écrits, qui sont extrêmement nombreux, sur quel régime il pourrait choisir, ça, c'est quelque chose de très court. Et pourtant, il écrit. Alors, dans les années 30, on voit qu'effectivement, il est un peu attiré par le fascisme mussolinien.
Oui.
Mais quand même, pas trop. Il y en a d'autres. La plupart, d'ailleurs, des gens qui vont après collaborer sont d'abord fascinés, par Hitler, sauf quelques rares personnes, mais surtout par Mussolini. On voit bien après que ce qui se passe en Espagne, notamment Franco, ça l'intéresse aussi. D'ailleurs, il va beaucoup parler de sa rencontre unique avec Franco pendant des années. Il va revenir, moi qui ai rencontré Franco à Salamanque, etc. Mais après, dernière position pour, il développe de temps en temps, mais très peu, une position corporatiste, en disant au fond, puisqu'il est plutôt contre ce qu'il appelle la loi du nombre, c'est-à-dire en gros le suffrage universel, donc on pourrait avoir des élections par catégorie ou par corporation pour avoir une espèce d'assemblée. Mais c'est tout.
Oui,
parce
c'est
que
pas net,
en réalité, fondamentalement,
il est contre.
C'est un homme contre. Et c'est plus qu'un homme contre, c'est un homme qui est obsédé par le fait que lui a la vérité et qu'en face, il a le mal. Il se bat contre le diable. Il a un côté... Alors, j'ai dans un passé un peu lointain, travaillé sur un autre bordelais qui s'appelait Pierre de Lancre, qui était donc un juge inquisiteur envoyé par Henri IV pour traquer la sorcellerie, donc les femmes essentiellement, les femmes sorcières en labour au Pays Basque. Eh bien, très curieusement, j'ai retrouvé des points communs extraordinaires entre Pierre de Lancre, qui finalement est un homme terrible, que l'on connaît aussi très bien, parce qu'il a écrit au moins 5 ou 6 000 pages, et Philippe Henriot, qui lui aussi écrit beaucoup. Ils sont obsédés par le fait de traquer le diable. Et le diable, ce n'est pas tellement le juif. Il y a un antisémitisme, si j'ose dire.
Il y a quand même des passages assez violents.
Il y a des passages violents.
Il y en a eu d'autres.
En 42-43, avant très peu.
Avant très peu, c'est progressif.
Oui.
C'est progressif.
Et surtout, pour terminer sur cette question d'antisémitisme, surtout quand il va travailler à Gringoire, où là il va être bardé, entouré par Carbuccia d'un côté, rebatté de l'autre, et je ne sais plus qui, un homme de Vichy d'ailleurs écrira « Gringoire a lentement l'intoxiqué ». Et ça, je crois que c'est relativement juste. Mais ses obsessions sont diables, c'est un diable à deux têtes, successives. Un, la franc-maçonnerie.
Ah oui.
Alors là, la franc-maçonnerie, mais il voit la franc-maçonnerie partout. La franc-maçonnerie tient tout, la franc-maçonnerie sait tout, elle est derrière le Parlement, elle est derrière les élections, elle est derrière les affaires, derrière toutes les affaires, il y a un maçon, derrière toutes les affaires, il y a des réseaux de maçons. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dénoncer la maçonnerie, il passe son temps à ça.
Oui.
Mais il accumule les interventions, il accumule les discours, il accumule les conférences, il a des effets théâtraux assez fabuleux, parce qu'il commence, et c'est François Mauriac qui raconte qu'il le voit un jour aux ambassadeurs à Paris, c'était un lieu de conférence, et il commence à dire, à parler d'un adversaire qu'il ne nomme pas, il parle de lui, et enfin, vous savez, c'est presque, oralement, c'est presque à la limite de l'orgasme, enfin il dit le mot, et le mot qui sort de sa bouche, c'est la maçonnerie. Et toute la salle est saisie d'un frémissement terrible, parce que c'était un grand orateur. Et alors le deuxième diable, celui qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. C'est le bolchevisme. Le bolchevisme, on le sent frémir un peu dans les années 20, sous sa plume. On le sent se renforcer dans les années 30, surtout avec le Front populaire quand même. Hein. Oui. 34-35, surtout 35-36.
La guerre d'Espagne.
La guerre d'Espagne. La retirada, qui est une chose abominable, ce sont tous ces Espagnols, c'est des communistes, ils ont tué tous les curés, ils ont tué toutes les bonnes sœurs, ils arrivent pour amener chez nous la violence, les dégradations, donc là aussi il va y avoir des choses très terribles dans sa plume, mais le communisme, le bolchevisme plutôt, c'est vraiment l'ennemi principal, et c'est au nom de cela, et si j'ose dire presque uniquement au nom de cela, qui va rentrer dans la milice, qui va souhaiter la victoire de l'Allemagne, exactement comme Laval, et pour les mêmes raisons, objectives, entre guillemets, en tout cas dites, qui est la lutte contre le bolchevisme. Soudain, nous sommes dans une croisade. Il est dans une croisade, il est un croisé, il est un grand inquisiteur.
Tout à fait.
Par rapport au local et national, il a été conseiller général.
Il s'est ennuyé.
Oui, parce que... Mais alors, justement, on a été un peu surpris. Parce que tous les grands noms étaient au conseil général.
Oui.
Alors, il faut savoir que...
Il y avait beaucoup d'absents.
Oui, que le conseil général se tenait rue Esprit des Lois, dans une petite salle que j'ai connue d'ailleurs, et où il y avait 50 conseillers généraux. Et donc, au départ, on s'était dit, ça doit quand même pas être mal d'avoir trois ténors nationaux se trouvant dans une petite salle à 50 personnes, puisque siéger en même temps, excusez du peu, Mandel, Marqué, Henriot. Donc, on s'était dit, alors là, on va se régaler. Il a dû y avoir des joutes oratoires extraordinaires. Hélas, patatras, pas du tout.
Pas du tout.
Parce que, d'abord, mais alors ça, ne le répétez pas, c'est un tuyau d'élu. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois toujours présents. Enfin, toujours marqués présents.
Oui.
Et c'est là toute l'astuce. C'est-à-dire, quand vous êtes un élu et que vous voulez montrer à vos électeurs que vous êtes assidu, vous allez au début de la réunion, vous pointez, vous signez, et puis après, hop, vous partez, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de débat. Alors, on le sait pourquoi. Pour deux raisons. La première, il y a ce qu'on appelle les scrutins publics. Un scrutin public, c'est quand vous allez voter à la tribune à l'appel de votre nom. Donc, si vous ne votez pas, c'est que vous n'êtes pas là. Et là, on s'aperçoit qu'en effet, ils sont souvent absents. Et deuxièmement, c'est quand il y a un membre de l'honorable assemblée qui vous en met plein la patate et vous ne répondez pas. C'est donc que vous n'êtes pas là, quoi, forcément. Donc c'est comme ça qu'on a pu, au-delà de l'ordre, de l'appel officiel, voir ceux qui étaient là et ceux qui n'y étaient pas. Donc on a été frustrés de ce débat, parce que d'abord, Mandel n'est pratiquement jamais là. Il est ministre, donc il a aussi cette justification. Et Marqué est celui qui est le plus souvent présent, mais Henriot est quand même assez souvent absent. Et quand tous les deux, par hasard, se retrouvent, ils s'évitent. Oui. Dans les débats, ils évitent
ils
tous les deux.
Pas.
Alors pourquoi tout le monde était au Conseil général à l'époque? Pourquoi? Alors que le Conseil général n'avait vraiment encore... beaucoup moins qu'aujourd'hui d'influence, parce que à l'époque, l'exécutif était tenu par le préfet, c'était pas le président. Et c'est comme, vous savez, pour une loi, si vous n'avez pas les décrets d'application, c'est pareil. Si le préfet, il y avait une délibération du Conseil général qui lui plaisait qu'à moitié, bah, il traînait les pieds pour l'appliquer, et donc, en définitive, ça s'appliquait pas. Mais, il y avait ce qu'on appelle les vœux. À l'époque, il y avait des vœux qui pouvait porter, y compris sur l'international. Et donc, tous les hommes politiques voulaient être élus, d'abord pour montrer qu'ils s'intéressaient aux problèmes locaux. Il voulait le montrer à leurs électeurs, bien entendu. Deuxièmement, parce qu'il y avait cette séance des vœux où il pouvait sortir un discours international qui ne tenait pas à l'Assemblée, d'ailleurs. Et puis, également, parce que, il faut bien le dire, en prenant la place, ça évitait qu'un jeune la prenne à leur place et devienne un concurrent. Et donc, si vous voulez, tout le monde à ce moment-là était au Conseil général. Il y avait aussi une autre raison, c'est qu'il y avait une énorme presse pluraliste. Il y avait donc les trois quotidiens dont je viens de parler, et il y avait toute une série d'hebdomadaires, à Libourne, Arcachon, dans le Médoc, tout ça, tout un tas. Si bien que quand vous parliez au Conseil général, vous étiez sûr que votre parole allait être reprise par le petit hebdomadaire de votre canton, où tous vos électeurs, n'est-ce pas, seront les lecteurs de vos propos. Donc ils étaient tous au Conseil général, ça ne servait strictement à rien. Les vœux non plus d'ailleurs, puisque le vœu, c'est comme son nom l'indique, ce n'est qu'un vœu dont l'exécutif... Et alors quand c'était un vœu international, vous pensez bien que le président du Conseil se foutait un petit peu du vœu des conseillers généraux de la Gironde. Et donc, alors c'est intéressant quand même parce que par ce principe des vœux, on voit leur position aux uns et aux autres. On peut dire que Henriot a essayé au départ, localement, d'entraîner avec lui l'ensemble des élus locaux. Et à un moment donné, il présente un vœu sur justement sur Mussolini, où il veut demander à ce qu'on ne soit pas trop dur sur les sanctions après. Voilà. Et donc, il présente son vœu. Et puis, il voit très rapidement, quand on a l'habitude, un homme politique voit très bien que l'Assemblée ne s'apprend ou ne s'apprend pas. Et visiblement, ça ne prend pas. Alors, il va sortir tous les arguments économiques, mais qui va acheter nos pains, qui va acheter notre vin, si on ne s'entend pas avec l'Italie, etc. Ça ne marche pas du tout. Et donc, il retire son vœu. Et à partir de ce moment-là, il va un peu mépriser cette assemblée de notables qu'il avait. Alors, c'est assez amusant parce que cette force du verbe qu'il avait marchait très bien devant une grande salle, marchait beaucoup moins sans doute devant une petite salle de 40 élus locaux. Peut-être aussi, c'était des notables à l'époque, qui étaient plutôt de son côté quand même, puisque la majorité était à droite, très nettement. Mais qui ne le suivaient pas parce que, à mon avis, il le trouvait trop violent, quoi. Et donc, par rapport à cette ambiance policée du Conseil général de l'époque, il détournait un petit peu, quoi. Alors,
modération girondine.
Voilà. Par rapport à la violence de Henriot. Donc, le Conseil général n'a jamais été pour lui... il a toujours tenu, il a été réélu, il est allé jusqu'à la fin du Conseil général, quand il va être suspendu par Pétain, mais il ira jusqu'au bout, bien sûr, mais visiblement, les dernières années, il s'en désintéresse un peu, à part, je voulais donner simplement ça comme note, parce que j'ai trouvé que c'était amusant, c'est que la guerre est déclarée, 1939, et à ce moment-là, on parle de fournir du vin à la troupe. Or, Henriot est viticulteur, château Picon. Et donc, lui aussi voudrait bien que le vin soit vendu à l'armée. Il va donc faire une déclaration au Conseil général en disant « Mais j'ai appris qu'en réalité, le ministère de la guerre, c'était le ministère de la guerre à l'époque, voulait acheter du vin, mais voulait l'acheter dans le Languedoc et dans l'Hérault, quand même, et notre vin à nous ». Et toute l'Assemblée est en effet figée quand il dit ça. Et à ce moment-là, il y a le président qui dit « Non, non, vous en faites pas ». On n'a pas voulu mettre le paquet au départ pour vendre notre vin, parce qu'on ne voulait pas vendre notre vin vieux. Mais le vin nouveau, surtout l'année qui va être en effet en quantité très abondante, là, le vin nouveau, on va pouvoir le vendre. Alors, il y a un ouf de soulagement dans l'Assemblée des conseillers généraux et Henriot le premier. Et c'est ça qui est un petit peu amusant, c'est que cet homme, comme Joël l'a très bien dit, qui était contre tout, qui était évidemment contre le système, c'est amusant que sa dernière intervention au Conseil général de la Gironde a été très bourgeoisement en faveur des vins de Bordeaux.
Mmh. Il y avait des intérêts personnels là aussi. Alors justement, puisque là on a vraiment, pour expliquer l'attitude d'Henriot au Conseil général, on voit l'élu qui parle, et vous parlez de violence verbale, elle est terrible alors à la Chambre, quand il est parlementaire, et elle est terrible aussi dans les meetings, parce qu'à cette époque-là, une campagne électorale se faisait à travers les meetings, et il y a de très belles pages justement sur cette violence, à la fois à la Chambre et aussi au cours des campagnes électorales. Et là, Henriot n'était pas en retrait, contrairement au Conseil général. Il était au contraire en premier
Alors,
plan.
Dans les assemblées, ça arrivait à beaucoup d'élus, mais à l'Assemblée
nationale... Même un duel.
Oui, alors, à l'Assemblée nationale, ça, il est vraiment le plus violent parmi les violents. C'est-à-dire que l'ambiance à l'époque, à l'Assemblée, on voit en dépouillant tous les comptes rendus, était beaucoup plus violente qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait un scandale de voir les propos qui étaient proférés. Mais... on peut dire que Henriot, parmi tous les violents, était le plus violent. Et il y a quelque chose qui est significatif. Il est élu, donc, député en 1932, et il va prendre la parole la première fois le 10 novembre 1932. C'est-à-dire que là, c'est sur l'aéropostale, etc. Et puis le lendemain, il va reprendre la parole, et là, il va en mettre sur tout le monde tellement... qui va déclencher mais du hurlement partout, tellement que le président de l'Assemblée, ce qui est quand même très rare, va être obligé de suspendre la séance. Vous savez, un président, c'est dans ses prérogatives de l'Assemblée, peut ce qu'on appelle suspendre les débats. C'est très court. Il la suspend pendant 10 minutes, un quart d'heure, de manière que les esprits s'apaisent. Mais c'est très rare qu'on suspende, généralement on suspend les séances pour que les groupes puissent se concerter. Mais là, il est obligé de suspendre la séance parce que Henriot déchaîne tellement les passions dès sa deuxième intervention à la tribune, ce qui est rarissime. Et il va devenir alors, on peut le dire, le champion des suspensions de séance, il va être le député qui va déclencher le plus de suspensions de séance jusqu'à la fin de l'Assemblée nationale. Pendant les 8 ans où il va être à l'Assemblée, il va toujours être celui qui va déclencher les tempêtes et qui va déclencher les suspensions de séance. C'était un homme verbalement extraordinairement violent, avec un verbe très, très provocant, quoi, parce qu'on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'orateur, mais c'était un homme qui savait trouver les mots blessants par rapport aux autres violents. C'était vraiment un orateur très, très violent.
Alors, fasciste ou pas fasciste? Il y a un débat historiographique, justement, sur le fascisme français, qui a opposé l'historien israélien Zev Sternel à d'autres historiens qui, lui, a démontré, a voulu montrer qu'il y avait bien un fascisme français, et qui s'est opposé à Serge Bernstein, à Jean-Noël Jeannonet, qui, au contraire, ont dit que non, il n'y avait pas un fascisme français. Alors, à travers Philippe Henriot, on se pose quand même la question, et vous vous êtes posé la question... de savoir si Henriot était fasciste ou pas. Et vous avez répondu, finalement, par la négative. Alors,
alors, travailler sur Philippe Henriot, ça nous a amené à travailler sur des pistes qu'on avait, pourtant on connaît assez bien la période, on a beaucoup travaillé sur la période déjà, mais sur des pistes qu'on avait peu explorées. La première piste en général, c'est la droite française dans l'entre-deux-guerres, où je me suis rendu compte que autant, je parle pour moi bien sûr, autant j'avais travaillé sur, sur la gauche en général, le Front populaire, le 6 février 34, Édouard Herriot bien sûr aussi, autant au fond pour moi la droite était une espèce de bloc dans lequel je voyais peu de nuances et que j'avais une tendance... depuis février 34 à baptiser fasciste ou pro-fasciste assez rapidement. Alors le deuxième intérêt de l'étude d'Henriot, c'était de regarder la complexité du monde catholique depuis la fin du 19e siècle jusqu'à 1945, avec sa complexité, ses évolutions et ses nuances. Et j'avoue que travailler sur Henriot nous a permis de creuser dans ces deux directions. Alors la première direction, sur la question de la droite en général. Oui. Tu as participé il y a quelques années, Sylvie, à un colloque tout à fait intéressant sur justement les deux France en 1936 et sur une définition un peu fine, non pas de la droite, mais des droites. Et où on se rend bien compte qu'en réalité, derrière le mot « droite », il y a des éléments différents. Il y a tout un groupe autour de Flandin qui va faire des basculements avec, en gros, les radicaux, ce qu'on appelle des alliances avec des gouvernements de concentration, dits de concentration républicaine. Laissant d'un côté la SFIO qui ne voulait vraiment pas gouverner, le PC, n'en parlons pas, mais aussi le reste de la droite. Il y a donc ce noyau. Il y a deuxièmement un grand parti qui est aussi un grand groupe parlementaire qui est autour de Louis Marin, qui est la Fédération républicaine, qui regroupe toute une série de parlementaires qui vont d'une droite catholique, républicaine, réactionnaire, classique, mais chaque mot ayant son sens. Ce sont des républicains, ils sont socialement réactionnaires, ils seront tout à fait hostiles à toutes les mesures du Front populaire, bien entendu, ils sont totalement catholiques. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a quelque chose qui est un peu frontière. Il y a des parlementaires qui sont frontières, où se retrouve Philippe Henriot, où se retrouve Xavier Vallat, où se retrouve Ibarnegaray, où se retrouvent des gens comme ça. Donc qui sont dans ce groupe républicain, mais quand même à la frange. Et alors, le deuxième aspect, c'est effectivement la question des ligues. Moi, j'avoue que j'ai lu avec un... Tu viens de parler de Serge Bernstein, que j'aime beaucoup... Et j'ai lu avec un immense intérêt les dernières publications qu'il a faites, notamment autour des mémoires du colonel de la Roque. Ah, il a publié le document qui a été écrit par le colonel alors qu'il était prisonnier des Allemands. Il en a fait les annotations, il en a fait la préface. Et pour moi aussi, là, ça a été un éclairage. Et j'ai réalisé aussi que d'une manière sûrement beaucoup trop rapide, je mettais tout ça à l'extrême droite. Une extrême droite qui était forcément anti-républicaine, ce qui est faux pour le colonel de la Roque. Ah, oui. Et bien entendu fasciste, ce qui est encore plus faux pour le colonel de la Roque d'ailleurs. Ah. Donc, je me suis dit que j'avais été un peu mangée par une vision trop rapide des choses, très militante sûrement, en historienne militante jeune, et que, au fond, je mettais tout ça derrière le mot fasciste, avec plus ou moins de nuances, jusqu'à ce que je réalise, en reprenant toutes les campagnes électorales des années 20 et des années 30, que le terme de fasciste a été infiniment manié par les communistes, qui avaient tendance à traiter de fasciste tous les adversaires, y compris Georges Mandel. y compris, alors j'ai cité d'ailleurs le passage sur Georges Mandel, y compris Georges Mandel qui bien sûr se présente en Gironde, comme vous savez, il est député du Médoc, il est maire de Soulac, donc là aussi on a bien vu les campagnes électorales, hop, il est fasciste. D'où la difficulté, disons, la prudence que les historiens, et moi en particulier qui ai moins eu de prudence dans le passé, devons avoir par rapport à ce terme fasciste. Qu'est-ce que c'est un fasciste ? Est-ce que, il me semble que ça doit quand même avoir une référence absolue à une définition d'un régime parlementaire, d'un régime politique qui refuse les libertés, qui refuse la représentation parlementaire, qui est souvent raciste, qui met en place des genèses, qui a un régime de propagande extraordinairement fort. Est-ce que Henriot, dans les années 30, est partisan de cela ? Voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment conclure à ça, quoi. Hein. C'est pas... il est comme beaucoup d'autres. Dans ces années où il y a la crise économique, dans ces années où beaucoup de monde se pose la question d'un pouvoir politique plus fort, ce qui n'est pas la même chose, où tout le monde se dit que, bien sûr, aux États-Unis, il se passe quand même des choses avec une prise de... avec une intervention de l'État voulue par Roosevelt que certains, en France, traiteraient facilement de fascistes. Parce que, justement, il veut un État plus fort. Or, à ce moment-là, qui veut un État fort se fait traiter de fasciste. Qui veut un État tel qu'il est aujourd'hui, en France, se ferait, dans les années 30, traiter de fasciste. Donc on a vraiment intérêt à être extrêmement prudent avec l'usage immodéré de ce terme. Alors ceci dit, est-ce qu'il va être partisan du régime de Vichy qui, par bien des côtés, interdiction des partis, presse complètement contrôlée, interdiction des centrales syndicales, va avoir un côté, certains aspects d'un fascisant. Régime fasciste, évidemment, en tout cas fascisant. Est-ce que Vichy le dérange ? Non. Là, effectivement, le fait de la défaite, le fait d'arriver au pouvoir de Pétain va faire que... il va s'accommoder très bien de tout cela. Hein. C'est la fin des débats parlementaires, c'est la fin de la maçonnerie. Hein. C'est quand même un grand progrès dans la vie, comme vous imaginez bien, du moins pour Henriot. C'est le retour de l'Église au pouvoir, c'est le retour de l'Église dans l'école. Quand même, tout ça est très bien. C'est la suppression des écoles normales, hein, qui était quand même... un endroit qui formait des enseignants qui, au vrai sens du terme, n'étaient pas catholiques.
Sauf que Pétain ne l'aimait pas.
Ah, Pétain ne l'aime pas.
Parce qu'il a critiqué l'armée.
Ah, ben là, je vais laisser Pierre parler de... Pierre adore parler de Pétain et d'armée.
Pure calomnie, bien entendu. Non, en effet, Pétain ne va pas l'aimer pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas fait la guerre de 14-18.
La pleurésie.
Et c'est d'ailleurs, à mon avis aussi, une des raisons pour laquelle il va rentrer dans la milice. Parce que pendant toute sa carrière politique, on va lui mettre dessus le fait... qui n'a pas fait la guerre.
Ancien combattant.
Voilà. Et alors, mais de manière assez violente. Et alors ça devient pesant même, oui. Parce que chaque fois qu'il prend la parole, il y a quelqu'un qui crie « Où étiez-vous en 14 ?» Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais... et puis alors des fois, comme toujours, il y a des gens qui, dans l'Assemblée, qui jouent à l'astuce. À un moment donné, justement, pour l'Espagne, on parle d'un wagon de poudre qui aurait été envoyé en Espagne, et dont Henriot dénonce le fait qu'on envoie un wagon de poudre pour aider les républicains espagnols. Et à ce moment-là, il y a un député qui s'écrie Oh, monsieur Henriot, ne parlez pas de poudre, vous ne connaissez que la poudre d'escampette. Et alors, voilà, c'est le climat par rapport, il entend ça tout le temps, d'une manière d'ailleurs qui devient tellement répétitive que ça devient un peu grossier, quoi. Et donc, moi, je crois que ce qu'il a aimé dans la milice, c'est qu'enfin, il allait avoir un uniforme, et en effet, vous voyez, c'est ce qu'on avait pu. Il a un uniforme, l'uniforme de milicien. Enfin, c'est un peu sa revanche, quoi. Et alors, c'était un homme aussi qui était un très grand orateur, mais qui n'était pas toujours très astucieux par rapport à ses thèmes. En particulier, on parle de lui, vous voyez, pour être, on est là dans la fin des années 43, et on parle de lui pour être ministre. Et non, c'est fin 42. Et il va faire à ce moment-là une sortie, mais alors vraiment une sortie contre l'armée, qui ne pense qu'à partir, qui à un moment donné, il est dans une réunion, et puis il y a un colonel qui est dans la salle, qui montre qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, et Henriot lui dit... Vous allez partir, vous avez l'habitude de vous retirer. Donc, si vous voulez, tout le temps, il va être, à ce moment-là, très dur par rapport à l'armée. Ce qui est une maladresse extrême, puisqu'on parle de lui comme ministre, et évidemment, Pétain n'apprécie pas beaucoup. Mais il était maladroit, il faut bien le dire. Un autre exemple, au Conseil général de la Gironde, à un moment donné, on parle de nommer le représentant du Conseil général au centre du bois. Et c'est un de ses amis qui est candidat. Et le gars fait son baratin pour être désigné par les conseillers généraux, et Henriot vient à son secours en disant « Mais c'est un grand connaisseur du bois, et il dit ce qu'il fallait pas dire, c'est un grand importateur de bois. » Et à ce moment-là, évidemment, il y a un conseiller général qui dit « Mais vous comprenez bien qu'on ne veut pas mettre quand même le loup dans la bergerie, quoi, hein, un importateur du bois, alors que nous, on ne sait pas quoi faire d'une autre. Hein. » Donc, c'est pour dire qu'il était assez maladroit. Et donc là, dans le cas présent, pour revenir à Pétain, Pétain, lui, en veut, et il lui en voudra tout le temps. La preuve, c'est que lorsqu'il va être nommé ministre, notamment sous la pression des Allemands, Pétain ne signera pas son décret de nomination. Il sera nommé par Laval, mais Pétain n'aura pas signé son poste de ministre, quoi, hein. Donc il doit son poste de ministre à Laval, qui a signé l'arrêté, mais pas à Pétain, qui ne le signera pas. Et qui, même quand il va mourir, va faire vraiment le strict minimum. Il va certes envoyer une lettre manuscrite à la veuve, c'est le moins qu'il pouvait faire, mais il assistera à un office religieux, mais en civil. Il n'assistera pas avec son uniforme, parce que, justement, Henriot n'était vraiment pas son candidat. Et donc, Henriot, toute sa vie, en définitive, a été marqué, alors que son père était officier. Hein, Et alors lui, il avait été...
Justement, peut-être, parce que son père était officier, que d'ailleurs, lui, il n'a pas combattu.
Il a eu une pleurésie qu'il a fait, qu'il a été réformé, mais l'abbé Berger avait aussi été réformé. L'abbé Berger, qui était le mentor, faut pas l'oublier, de Henriot. L'abbé Berger aussi avait été réformé, c'était quand même engagé, quoi, hein, tandis que Henriot ne l'a pas été, quoi. Donc, mais c'est vraiment pour lui, ce problème de l'armée, un problème très important. Et dans son premier livre, d'ailleurs, je pense qu'il règle aussi un peu ses comptes par rapport à son père, puisqu'il raconte un père qui, au fond, a un peu trahi...
Un père qui est militaire.
Oui, qui est militaire et qui trahit, au fond, la cause militaire.
Oui, vous avez cité l'abbé Berger. C'est vrai qu'au départ, il a été un petit peu son mentor. Et ah, Joël oui. disait, soulignait la complexité à la fois des droites, mais aussi des catholiques. Les oui. catholiques ne forment pas un tout, un bloc, si je puis dire. Et là, les relations de Philippe Henriot avec les catholiques ont été parfois difficiles, complexes, contrastées. Et il n'a pas eu l'appui. Au fond, c'est un homme qui est assez seul, qui est assez isolé.
Oui, alors
c'est un loup solitaire. Avec l'abbé Berger, il y a eu effectivement des hauts et des bas. C'était son mentor et puis ensuite un concurrent aussi oui. Sur le plan local. Oui. Et dans le monde catholique, il a été parfois effectivement fortement critiqué sur certains de ses propos. Est-ce que vous pouvez là un petit peu développer cette complexité?
Alors moi j'avoue que
cet isolement au fond.
Un des intérêts de ce livre pour nous et pour moi, parce que c'était vraiment un manque que j'avais, c'est précisément d'avoir mieux connu le monde catholique entre, disons, 1890 et puis 1945, dans ses complexités, ses divisions et ses évolutions. Et j'avoue que c'est vrai que j'en suis sortie beaucoup plus riche de ce point de vue. De ce point de vue-là, alors bien entendu, il y a toute la branche de l'Action française. Elle est capitale, elle est très importante en général, elle est très importante à Bordeaux, où Maurras vient plusieurs fois, bien sûr. Henriot n'en fait pas partie.
Non.
Il essaiera un peu, notamment lors du grand meeting de 37, quand Maurras sort de prison, il y a un très grand meeting à Paris, alors il ira, bon... Mais en fait, il ne fait pas partie de ce monde-là. Il y a, bien entendu, des catholiques beaucoup plus progressistes, tels qu'ils commencent à se développer avec des branches, y compris qui vont être proches du front, du Front populaire. Alors lui, bien sûr, pas du tout. Il est sur une position très... pas royaliste. Pas royaliste, donc il n'est pas Action française, hein. Vraiment à droite, et il a l'art de se trouver de fabriquer des ennemis,
oui.
Et parmi ces ennemis, il va y avoir justement, y compris sur son propre territoire, des ennemis importants. Alors premier ennemi, enfin devenu ennemi, c'est bien sûr l'abbé Berger, c'est quand même extraordinaire. L'abbé Berger est une forte personnalité qui a créé le mouvement des soutanes de France, qui s'est infiniment engagé en 1924 dans la lutte contre Édouard Herriot, quand celui-ci a voulu à la fois rompre avec le Vatican et étendre les lois laïques à l'Alsace-Moselle. Donc là, il y a vraiment un personnage très important. Henriot suit, il est dans cette trace, et l'abbé Berger va être localement un homme politique très important, vraiment jusqu'au bout. En 32, pour une raison, alors il est député en 28, l'abbé, il est député en 32. En 32, il n'est pas candidat pour une raison pas très très claire, une histoire qui était liée à son frère, bref, peu importe. C'est Henriot qui est candidat et qui prend la circonscription. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y a eu une rupture entre les deux hommes. Et l'abbé continue sa course malgré tout, mais Henriot lui prend au fond et le parti et le journal, et il fait tout pour se séparer, pour éliminer, pour écarter l'abbé Berger. C'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, et on ne comprend pas très bien ce qui se passe.
On va peut-être terminer sur Henriot et sa famille.
Ah oui.
Parce que au fond, on la voit, sa famille, mais un petit peu en filigrane, sauf dans les dernières années. Sa femme apparaît... on a parlé de certaines incartades, tu vas nous en parler.
Toutes petites.
Toutes petites.
Et franchement, un peu triste.
un peu triste.
Ah, oui, oui.
Tu en as parlé.
C'est pas un jouissif.
Ses rapports avec ses deux fils aussi. Alors, il en a perdu un.
Oui.
C'est Jacques. Oui. Et André, qui lui a revêtu l'uniforme allemand.
Ah, oui.
Dans le fond, voilà. Mais ces deux fils, c'est pareil. Dans l'ouvrage, vous en parlez une phrase. Et puis on les voit plus. Et vous en reparlez, et peut-être justement, c'est tout à fait significatif. Lorsque les fils sont grands,
oui.
Lorsque les fils sont adultes, et là, on a l'impression que Philippe Henriot commence à s'intéresser à ses fils. Alors, est-ce une impression que j'ai eue qui est fausse, ou bien quels sont un petit peu ces rapports familiaux de cet homme qui est si violent, qui est si isolé, qui est à la limite acariâtre parfois? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces rapports familiaux?
Alors c'est un drôle de bonhomme, Henriot.
Oui.
D'abord, c'est un drôle de bonhomme physiquement.
Ah oui.
Il est grand, il est maigre,
il a des dents
vite bouffées, assez noires, il a des oreilles décollées, ce qui, quand il était petit, a dû entraîner, vous connaissez la méchanceté des cours de récréation, a dû entraîner beaucoup, beaucoup de plaisanteries saumâtres de la part de ses copains. Et comme il est très nerveux, il a facilement des rictus quand il parle. D'ailleurs, autant ce sera un très grand orateur de meeting, autant quand, devenu ministre, il va être pris par les actualités, en gros plan, il va, dans les salles, ça va déchaîner, non seulement politiquement, mais même physiquement, par rapport à ce qu'il est, hein, par rapport à son visage peu agréable, disons, ça va vraiment déchaîner des sifflets, des broncas, au point qu'on, quelquefois, on va d'ailleurs arrêter les dites actualités. Donc il est un peu bizarre comme ça, Henriot. Il a ce rapport un peu étonnant. Il est ses enfants. Alors il se marie avec une mini héritière d'un petit château qui fait château, mais bon, qui apporte pas beaucoup.
C'est pas
de
la grande fortune.
C'est un homme pauvre, Henriot. Et c'est un point au moins positif à mettre à son actif.
C'est pas un homme d'argent.
Et
ce n'est pas
intègre.
Un homme d'argent.
Oui.
C'est un homme intègre. C'est un homme qui ne s'est jamais enrichi. C'est un homme qui est mort comme il a vécu, avec une espèce de petit costume marron râpé. Vraiment, c'est pas un homme qui s'est enrichi. Mais il porte en lui cette espèce de force terrible. Alors par rapport à sa femme. Bon, je crois qu'il tombe amoureux de la sœur d'un de ses élèves à Sainte-Foy-la-Grande, dans ce tout petit collège religieux où il enseigne. Bon, il se marie en 14. Il a effectivement trois enfants.
Il a écrit des poèmes.
Il écrit des poèmes, il écrit un roman qui est publié, il écrit un deuxième roman. Apparemment, tout va bien. Il a été enfant, il a été en pension. Il met ses fils en pension. Sa fille aussi, après d'ailleurs, qui est la plus jeune, en pension. Il les met à Bétarame quand ils sont petits.
Oui.
Voilà.
C'était pas une pension particulière.
Voilà, c'était une pension très très dure.
Très stricte.
Et après, à Tivoli, quand ils sont plus grands. Donc, ce qu'il a souffert, lui, comme enfant, parce qu'il aimait beaucoup sa mère et il a été séparé de sa mère en pension, il a fait sans aucun problème subir à ses fils. On connaît peu les relations avec ses enfants, mais c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant de voir que son fils cadet est quand même suffisamment attentif à ce que fait son père pour que Et aux propos que tient son père depuis l'attaque allemande contre l'Union soviétique, au moment de l'opération Barbarossa, donc là il devient complètement pro-allemand à ce moment-là, et le fils rentre, le fils prend l'uniforme allemand et rentre dans un corps qui s'appelle la NSKK, qui est en fait un corps qui n'est pas qui est un corps de l'armée allemande. Il prête le serment à Hitler, il porte l'uniforme allemand, et donc il va faire la guerre avec les Allemands, même si c'est dans un corps motorisé qui essentiellement porte des... qui ne fait pas directement la guerre, quoi. Il porte différentes choses...
Auxiliaire.
Un
corps
auxiliaire.
Mais il se balade avec cet uniforme à Sainte-Foy-la-Grande.
Il se balade avec son uniforme. Il se balade avec cet uniforme.
À Sainte-Foy-la-Grande.
Il y a quelque chose là de terrible dans ce fils qui a été séparé de son père pendant longtemps, qui perd son frère aîné, et puis qui effectivement prend l'uniforme allemand, ce qui va terriblement peser, comme vous imaginez, sur ses propres enfants, encore aujourd'hui.
Certainement.
Je voulais dire un mot sur ce qui quand même est une caractéristique de Henriot, c'est le verbe. C'est vraiment un orateur hors du commun. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on était aux périodes déclamatoires, vous savez. Et il a été un des premiers, on a dépouillé tous les disques, on a regardé les films, etc. Il a été un des premiers à rompre avec la période déclamatoire et à faire un peu un discours, j'ose pas dire à la Castro, mais presque, c'est-à-dire au fond, dans une salle, où c'est un procédé qu'on connaît bien, maintenant tous les politiques connaissent ça à fond, ils prennent un interlocuteur dans la salle et ils le regardent dans les yeux et ils disent, ils vont faire la question et la réponse. « Monsieur, vous pensez que je vous ai menti ?»« Eh bien, non !» Et voilà. Et il va faire ainsi, si vous voulez, pour la première fois. Il a créé cet art oratoire du débat entre des auditeurs directement et lui-même. Et puis il va aussi, notamment alors à la radio. Il ne faut pas oublier qu'à la radio, même des gens qui ne l'aimaient pas reconnaissaient que quand ils parlaient à la radio, les rues se vidaient dans les villages, parce qu'on allait écouter Henriot. C'était vraiment l'orateur. Et là, il avait la suprême habileté, parce que l'homme était, au point de vue oral, un type très astucieux. Il savait qu'il prenait la parole, par exemple, mais il disait, écoutez... Je sais qu'il est interdit d'écouter la radio de Londres. Mais je sais que vous l'écoutez tous, à la radio, officielle. Je sais que vous l'écoutez. Tiens, je vous donne un exemple. Hier, eh bien, ils m'ont démoli et ils m'ont dit ceci, cela, sur moi, tout ça, que j'étais ceci, que j'étais cela, etc. Il le dit. Alors, mettez-vous dans la peau de l'auditeur. Il dit, j'apprécie, mais il dit vrai, ce gars, en effet, je l'ai écouté hier à la radio. Et une fois qu'il arrivait au bout de son numération, et maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut en penser. Vous savez, vous connaissez tous la célèbre remarque d'Egdafor, qui arrive au dernier moment, il était avocat, pour faire une plaidoirie, parce qu'il était toujours très bousculé, et il commence à plaidoirie, et au bout d'un moment, il y a son assistant qui le tire à la manche, qui dit « Maître, ici, vous êtes partie civile. » Et Edgar Faure dit « Et si j'avais été le défenseur, messieurs les jurys, du prévenu, voilà ce que je vous aurais dit. Mais maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut en penser. » Et il démonte point par point ce qu'il vient d'exprimer. Eh bien, Henriot, c'était ça. C'est-à-dire, au fond, il citait ce qu'on avait dit sur lui, ce qui, en même temps, montait son côté un peu narcissique, quand même, quoi. Et il citait et il démontait ce qui avait été fait. Donc, c'est ça, cet art oratoire qui a vraiment, quand même, mobilisé beaucoup, beaucoup de monde et qui faisait vraiment sa force. Et tous les commentateurs de l'époque, même ceux qui le détestaient, reconnaissent sa force. Et d'ailleurs, soyons clairs, s'il a été tué par la résistance, c'est justement pour ça. Parce qu'il avait une emprise. Exactement, il avait une emprise. Et d'ailleurs, Laval avait eu cette phrase en disant « On n'a pas pu lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux ».
Bien, écoutez, je crois que nous allons clore le débat. Remercier Joël et Pierre pour leur contribution.